Ah, la première gorgée de pastis de l'été. C'est souvent la meilleure. Parce que souvent, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu. Hein. Moi, je bois pas ça l'hiver, mais j'attends qu'il fait beau. Puis c'est drôle, mais cette année, j'ai attendu d'être ici, en France, pour en boire. Justement pour ajouter à l'expérience et vous partager cette expérience-là. Donc, en ce moment, je suis en vacances. Je suis à l'extérieur du chalet qu'on a loué. Dans le sud de la France. C'est 15 minutes au nord d'Aix-en-Provence. Et puis, bien, il fait soleil, évidemment. On est à la mi-juin. On doit être le 15 ou le 16. Je me rappelle plus. On perd la notion du temps. Puis, ben, je suis tout simplement à l'extérieur du chalet. Je suis assis, c'est drôle, sur des chaises en PVC. Hein. Il n'y a rien de plus nord-américain que des chaises de parterre en PVC. Ben, il y en a ici aussi. Hein. Sauf que le chalet est tout chouette, là. Il est tout en bois, puis ça fait, je crois, 3 ans qu'il a été construit. Sur le terrain des propriétaires, en fait, la maison est juste de l'autre côté ici, puis je la vois à peu près quoi? À une centaine de mètres, même peut-être moins, peut-être 50 mètres. Et puis, ben, on a accès à la piscine, puis c'est incroyable. Aussi, l'appréciation qu'on fait de quelque chose, comme par exemple dans ce cas-ci du pastis, est très dépendante de où est-ce qu'on est, dans l'état dans lequel on se trouve. C'est sûr qu'être en vacances dans le sud de la France, ben c'est très, très différent qu'être à Montréal, j'imagine, sous la pluie, par temps froid pour mes collègues. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça, parce que, bon, ben c'est évidemment, on est durant mes vacances, puis on verra quand je vous le ferai jouer dans le Québec en balado-diffusion. Tout ça pour dire que tout l'environnement fait en sorte que qu'on apprécie mieux ou différemment les choses. Parce que ça serait pas mal moins sexy si je vous disais que tout ça a été enregistré à Montréal, plutôt qu'en France. Parce que ici, ben, on a tout, hein. On a les cigales, on a la petite brise, le petit vent qui est le Mistral. Y a aussi le soleil qui est différent. Tout est différent, hein. Eh oh! Les cigales! Eh oh! Le Mistral! Eh oh! Les bruits d'ambiance! Ben, tout ça a été vraiment enregistré à Montréal. Donc, en direct de Montréal, mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez le 53e Québec en balado-diffusion. Ben oui, je vous le dis souvent que à l'aide de l'audio, ben on peut se faire transporter ailleurs. Et dans ce cas-ci, je vous ai vraiment transporté ailleurs. Pourquoi? Ben parce que je voulais simplement faire la démonstration qu'on peut, à peu de frais, transporter les gens, vous amener ailleurs, vous faire voyager. Puis aussi, ben, tous les signes étaient là pour que vous me croyiez. Les gens qui me connaissent ou si vous écoutez déjà l'émission, peut-être que je l'ai mentionné que j'allais en France durant mes vacances en juin. Et comme vous me connaissez, ben, c'est sûr que j'allais rapporter de l'audio. Sauf que cette introduction-là n'a pas été enregistrée en France. Oui, j'ai bu du pastis. Oui, je me suis assis sur la terrasse. Oui, je me suis baigné dans la piscine des propriétaires. J'ai fait plein de choses incroyables. Je suis allé à plein d'endroits. J'ai juste à penser à la plage de Cassis. Bon, je suis allé à Marseille, Aix-en-Provence. Je suis retourné en Camargue. Je suis allé aussi à Châteauneuf-du-Pape, tant qu'à rapporter du vin aussi bien, à rapporter de l'excellent. Donc, j'ai fait tout ça, sauf que j'ai pas enregistré cette intro-là. Mais je vous ai rapporté de l'audio de la France, c'est sûr. Puis, je vais vous la faire jouer dans cette émission. Donc, simplement aussi pour vous dire que, contrairement à la vidéo, il y a moyen d'amener beaucoup d'effets spéciaux et de transporter les gens en audio. Parce qu'en vidéo, ben, pour faire la même chose, ça vous prendrait ben, un blue screen ou un green screen. Puis pour qu'on puisse se transporter, ça prendrait bon des gens d'éclairage, des gens de maquillage, tout pour faire en sorte qu'on s'y croit. Puis même là, en contrôlant tous les paramètres, je ne suis pas sûr qu'on réussirait à rendre avec autant de vérité, le fait d'être dans un autre endroit, mais en audio, bien, c'est facile à faire, relativement facile à faire. Il faut s'y connaître quand même, il faut bien doser. Mais c'est la preuve qu'on peut faire toutes sortes de choses à peu de frais. Donc, au menu cette semaine, je vais vous parler, évidemment, il y aura un carburant de la semaine. Pour ceux qui l'attendent, je vais vous parler des Third Tuesday qui ont eu lieu l'autre semaine à Montréal. Je vais vous parler différents événements qui auront lieu aussi à Montréal, de conférences, tout ça. Je vais vous parler de Geoff Livingston. Si vous ne savez pas c'est qui, vous allez l'apprendre. Je vais vous parler aussi de Audioboo, de Volomédia. Et par la suite, je vous ferai jouer cet audio que j'ai enregistré en France. Avant de passer aux choses sérieuses, durant mon hiatus, c'était le troisième anniversaire de Québec Balado. Donc, ça fait plus de 3 ans maintenant que je vous concocte cette émission. Donc, on passe à la 4e saison. C'est assez incroyable. Quand je me suis lancé dans le podcasting, je pensais probablement faire ça pendant à peu près 2-3 ans. Puis, ça serait ma contribution. Mais finalement, j'adore ça, même si je podcast quoi en moyenne aux 3 semaines, 53 émissions en 3 ans, donc ça donne une moyenne d'un podcast aux 3 semaines. Dites-moi si vous appréciez toujours l'émission et si vous êtes toujours à l'écoute. Il faut dire que la dernière fois, je vous ai fait une émission marathon de plus d'une heure, quoi, une heure et demie. C'était assez long, donc on va essayer de ne pas récidiver avec ça. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site le player fait par Wizard Media. J'ai décidé d'ajouter ça parce que les gens arrivent sur le site, ne savent pas trop c'est quoi la balado, n'osent pas cliquer. Puis le player normal qui vient avec le plugin PodPress, il est tout petit, c'est un petit carré gris avec un logo Play. Et les gens ne sont pas aussi tentés d'appuyer sur Play qu'avec un player vidéo. Donc, ce player vidéo-là fait aussi jouer de l'audio et aussi montre l'image qui est imbriquée dans le fichier MP3. Donc, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si l'émission aura plus de succès, si les gens seront plus tentés d'appuyer sur Play lorsqu'ils arrivent de Google. Ils débarquent sur le site, je ne sais pas. Faut dire que c'est difficile d'évaluer parce que l'été, c'est souvent la saison creuse du podcasting. Les gens sont en vacances, les gens écoutent moins, donc on verra ce que ça donne, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc, vous connaissez le Québec en balado-diffusion, mais connaissez-vous l'autre Québec balado, c'est-à-dire Québec en balado-diffusion? Et je parle ici de la ville de Québec. Je suis allé sur le site, j'ai trouvé ça purement par hasard en regardant d'où les gens arrivent par Google dans mes statistiques. Je me suis dit, c'est intéressant de voir qu'est-ce que les gens cherchent pour trouver mon émission. Puis j'ai vu que les gens cherchaient pour balado-diffusion au Québec, puis les gens tombent sur Québec en balado-diffusion. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui est produite par l'Office du tourisme de la capitale, c'est-à-dire de la capitale de Québec. C'est en fait des audioguides. C'est une balade à travers de la ville de Québec, à travers certains quartiers de Québec. Donc, ça parle entre autres beaucoup de Beauport, qui est un endroit très joli, mais aussi un endroit qui est riche en histoire. Il y a beaucoup de vieilles maisons dans cet arrondissement-là de la ville de Québec. Donc, est-ce que c'est bon? Non, pas nécessairement. Est-ce que c'est un podcast? Et c'est ça l'autre problème, c'est pas un podcast. Québec en balado-diffusion, en fait, c'est vraiment un audio-guide qu'il faut télécharger à la mitaine. Donc, il n'y a pas d'épisode, c'est pas mis dans un fil RSS. Donc, les gens qui ont fait ça savent vraisemblablement pas de quoi ils parlent. Deuxièmement, faire un audio-guide et ajouter des sons alors que l'audio-guide est destiné à ce que les gens l'écoutent sur place, un coup qu'ils sont rendus sur place. Je veux dire, les sons faits en studio peuvent rarement rivaliser avec la vraie chose si les gens l'écoutent effectivement sur place. Et aussi, on essaie de nous parler de façon familière, comme si je vous parlais comme là en ce moment. Sauf que tout ça est stagé, tout ça est enregistré en studio, tout ça est fait par des comédiens. Ça sonne faux, tout sonne faux là-dedans. Si on fait un audio guide, faisons un vrai audio guide. Si on fait une balado-diffusion, faisons une vraie balado-diffusion. Mais Faire croire aux gens que c'est une balado-diffusion alors que c'est quelque chose d'hyper stagé qui sonne même pas comme un vrai audio guide. Je veux dire, en tout cas, vous pouvez lire dans mes pensées. C'est pas nécessairement très bon. Allez l'écouter vous-même. Je sais pas à qui ça se destine, ce projet-là, mais c'est un projet un peu mi-figue, mi-raisin, donc qui rencontre aucun des paramètres et aucun des potentiels des plateformes. Alors, on passe aux choses sérieuses. Oh oui! Un carburant de la semaine. À chaque fois que je fais pas de carburant de la semaine, les gens me le font remarquer. Donc, je sais que c'est un segment qui est apprécié de l'émission. Et tellement que ce que je vais boire à l'instant, je l'ai reçu au Third Tuesday. J'ai été invité avec, entre autres, Julien Smith à aller parler au Third Tuesday. Il y avait aussi C.T. Moore. Donc, on était trois. Et puis, normalement, ben, il donne une bonne bouteille de vin aux conférenciers. Et puis, ben, étant donné que c'était l'été, tout ça, et que je fais des dégustations de bière dans mon podcast, ils ont décidé de donner cette fois-ci de la bière. Donc, j'ai trouvé ça assez sympathique que la marque du carburant de la semaine soit assez forte dans les médias sociaux à Montréal pour qu'on décide de donner de la bière à tout le monde. J'ai trouvé ça drôle. Donc, qu'est-ce que je bois? Que je vais boire, en fait, ça s'appelle Mac Croken Flower. Qu'est-ce que c'est? C'est une Scotch Ale au miel, 500 ml à 10,8% d'alcool. Donc, je vous conseille pas d'en boire 4-5 puis faire du vélo après ça. Là, je pense que ça va être difficile. Je vous lis ce qui est écrit sur l'étiquette. Ce sont les Flamands qui, les premiers, développèrent ce type de bière pour le compte des Écossais. Le chardon écossais et le miel de fleurs sauvages sont les ingrédients clés de cette recette. Bière douce et complexe, riche et généreuse, elle développe des arômes de vieux Porto et de caramel intense. Je vais la verser. Oh là là! Vous avez pas vu ça, mais c'est brun longtemps. Si je regarde la couleur, c'est très foncé, assez opaque. Ça a la couleur vraiment du Coca-Cola avec le même genre de reflet un peu rougeâtre. Écoutez, je vous jure, la mousse tient tellement, là, c'est moitié-moitié dans mon verre. Le verre est plein, la moitié inférieure, c'est de la bière, la moitié supérieure, c'est de la mousse, puis une mousse qui, vraiment, là, elle s'en va pas. C'est drôle, hein? Ça sent bon, ça sent presque les bonbons, ça sent... C'est drôle, hein? J'ai eu un souvenir de Mr. Freeze en sentant ça. En même temps, ça sent beaucoup la bière, là. Je vais la goûter devant vos oreilles. Oh! C'est bon, puis c'est surprenant en même temps. C'est sûr que ça goûte beaucoup la Scotch Ale, mais j'ai déjà goûté des Scotch Ale qui étaient plus fumés que ça. Ça goûte beaucoup les bonbons, un peu floral, mais pas tant que ça en même temps. Et puis, le goût de fumée arrive par après. Et ce qui arrive aussi, pendant qu'on la boit, ça goûte le caramel brûlé. Vous savez, quand on fait cuire quelque chose dans lequel il y a beaucoup de sucre, puis là, ça prend un peu au fond, là. Tu sais, ça colle sous la dent, là. Ça goûte ça. Vraiment le caramel brûlé. C'est super bon. Donc, je remercie les organisateurs du Third Tuesday. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment gentil de m'avoir donné cette bière-là. Et puis, mais c'est fait par la microbrasserie Bill Boquet à Saint-Hyacinthe. Donc, si ça vous intéresse, essayez ça. La Mac Croken Flower, c'est très très bon. Moi, j'en boirai pas 12, là, mais c'est très bon parce qu'il y a beaucoup de goût rafraîchissant, de bonbons, de caramel, de Mr. Freeze. Ça goûte l'été, c'est bon en temps. Tant qu'à vous parler des Third Tuesday, mais je vais vous en parler pour vrai parce que j'ai fait une conférence éclair, c'est-à-dire. Un peu à la mode Pitcha Kucha, on fait 20 diapositives dans PowerPoint ou dans Keynote, dans votre logiciel de présentation préféré. Et chaque diapositive doit durer 20 secondes. Donc, on parle pendant 20 secondes. Donc, je m'étais un peu pratiqué ici avant. Sauf que un coup sur place, c'est sûr qu'avec le stress, tout ça, ça se passe, bon, même si j'ai bien pratiqué, pas toujours parfaitement comme on voudrait, mais quand même, ça a bien été, c'était assez intéressant. Et j'ai parlé de mon arrière-grand-père. Ma conférence s'appelait « Ceci n'est pas du social media ». C'est sûr que ça fait référence au tableau « Ceci n'est pas une pipe », tableau de Magritte très, très, très connu, où est-ce qu'on voit une pipe qui a été peinte. Et c'est vrai que ceci n'est pas une pipe parce que c'est l'image d'une pipe. C'était la réflexion de Magritte. On montre quelque chose, mais on dit que ça ne l'est pas. Et ça ne l'est pas vraiment parce que c'est l'image, c'est pas une vraie pipe. Donc, c'est assez intéressant. C'est pour ça que j'ai repris un peu, j'ai tweaké un peu ce titre-là pour dire « Ceci n'est pas du social media ». Parce que, en réalité, les médias sociaux, c'est pas des médias sociaux. C'est pas. On voit ça comme étant magique, on voit ça comme étant une solution incroyable, ça vient du web, tout ça. Mais en réalité, le côté social est beaucoup plus important que le côté électronique, que le côté média là-dedans. Parce que on revient à la base, en fait. On revient à une base où est-ce qu'on communique de personne à personne, où est-ce que chacune des deux personnes qui se parlent est importante. C'est pas simplement l'entreprise qui parle aux gens qui sont en dessous, qui parle à la population, mais il y a une réelle conversation qui se passe. Et c'est en train d'arriver en ce moment. Et je voulais un peu prouver que, en fait, les choses n'ont pas changé depuis 102 ans. L'histoire que je raconte s'est passée en 1907, lorsque mon arrière-grand-père est arrivé dans mon village natal. Et puis, Vous irez l'écouter. La vidéo est là. Christian Aubry, que vous connaissez peut-être, a filmé lors des Third Tuesday. C'est pas long, ça dure 6-7 minutes. Et puis, voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Ça vous montrera un peu le genre de conférence que je fais, le genre de présentation que je fais. Parfois, bon, je fais des conférences marathon de 40 minutes, une heure et parfois même plus. Parfois, je fais des conférences de 2-3 heures. Mais ça vous montrera un peu le dynamisme et le genre de choses que je fais. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, il y a le podcast Montréal qui s'en vient très, très bientôt. C'est quand? C'est les 19 et 20 septembre prochains. On devrait mettre en ligne le formulaire d'inscription très, très, très bientôt. Aussi, le formulaire pour soumettre votre idée de conférence. Ça risque d'être intéressant parce que l'année passée, il y avait quoi, plus de 500 participants. C'était un énorme succès. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'autres podcamps qui, à leur première édition, ont eu autant de participants, même Podcamp Boston, le tout premier. Je suis même pas sûr qu'il y avait 300 personnes qui étaient là. Donc, ça risque d'être fort intéressant encore cette année. On vous réserve des surprises. Regardez, dans les une ou deux prochaines semaines, vous risquez d'avoir un avant-goût de ces surprises-là sur le web. On va mettre la vidéo en ligne, on va mettre toutes sortes de choses. Le site aussi demeure à être modifié, sauf que vous allez voir, tout va se passer très, très vite. Inscrivez-vous dès que vous pourrez parce qu'on risque d'avoir beaucoup de plaisir. Puis, c'est vraiment l'événement de choix pour vous initier aux médias sociaux, pour vous initier aussi à l'usage que vous pouvez faire tant de façon personnelle qu'en entreprise. On discute de toutes sortes de sujets. Ça parle toujours de vidéos, de podcasting, audio aussi, de Twitter, de l'usage de médias sociaux, de blogging, de plateformes. Bref, il y a du fun à avoir là. Venez faire un tour. Dans les rondes de conférences que je vais faire cet automne, bien même cet été, ce qui s'en vient, premièrement, il y a un workshop du ministère de l'Éducation qui s'appelle la lecture à l'écran. Donc, c'est dans 2 semaines, c'est très bientôt. Je ne sais pas qui seront tous les participants. J'en connais peut-être 3 ou 4. Mais bref, si vous êtes enseignant, si vous êtes dans ce cercle-là de la lecture à l'écran, ben venez faire un tour, ça risque d'être assez intéressant. J'ai un workshop qui risque de durer, je crois que j'ai 3 heures au total. Donc, la première partie sera une partie conférence. La deuxième partie sera vraiment une partie workshop où est-ce que je ferai participer les gens, puis je vais simplement discuter de la balado-diffusion, de ses applications, de comment on peut l'utiliser dans le milieu de l'éducation, les applications possibles. Tout ça, ça risque d'être bien intéressant. Donc, si vous y allez, ben, j'ai hâte de vous rencontrer sur place. Ça risque d'être le fun. Il y a aussi les conférences de Action TI. Action TI, c'est quoi? Ben, c'est un peu un genre de regroupement de gens qui agissent en TI, en technologie de l'information. Où est-ce qu'ils partagent du savoir, tout ça? Il y a toutes sortes d'événements aussi. Et puis, ben, il y a des conférences qui sont organisées chaque année sur les nouvelles tendances, sur vraiment comment évolue le milieu des technologies de l'information. Donc, on m'a invité à venir parler des médias sociaux en général, de leur usage en entreprise, quels sont les avantages, les bénéfices, parfois aussi les inconvénients et les risques aussi, parce qu'il y a des risques à utiliser les médias sociaux en entreprise. Donc, je vais aller leur parler de tout ça. Je vais essayer d'apporter des exemples pertinents. Et puis, on risque aussi d'avoir beaucoup de plaisir si vous êtes membre, si vous êtes dans les technologies de l'information. Allez voir du côté de Action TI. Je vous mets un lien dans les notes de l'émission. Ensuite de ça, ben, il y a un autre événement qui se passe à l'automne qui reste à annoncer. En fait, on m'a confirmé ma présence, sauf que je ne peux pas vous l'annoncer de vive voix tout de suite. L'événement n'a pas été annoncé par les organisateurs. Donc, je vais laisser le soin aux organisateurs de l'annoncer. Et puis, ben, je vous en reparlerai dans le prochain Québec en balado-diffusion. Ça risque d'être le fun. Je risque d'avoir, en tout cas, moi personnellement, beaucoup de plaisir à faire cet événement-là cette année. Et puis, j'espère que les participants aussi auront bien du plaisir. Ensuite de ça, mais il y a quelques autres événements à confirmer pour l'instant. Je vous tiens au courant. Puis, si ça vous intéresse que j'aille vous parler des médias sociaux dans votre entreprise, je fais des conférences. J'ai plusieurs sujets que je discute. Et puis aussi, je fais des formations. Donc, si vous voulez entendre parler de l'usage du microblogging, de Twitter, des marques personnelles, du personal branding. Si vous voulez entendre parler de la balado-diffusion et aussi de toutes sortes de techniques de marketing grâce aux médias sociaux, je peux aller vous en parler. Envoyez-moi un email tout simplement à sylvain@commercialfono.ca. Fono s'écrit F-O-N-O. Qui est Geoff Livingston? Bref, c'est un gars. Je crois qu'il habitait, est-ce que c'est à New York auparavant, qu'il a déménagé à Washington. Moi, je l'ai rencontré dans un événement auparavant. En fait, je ne suis pas sûr si je l'ai rencontré à PodCamp Boston ou dans un autre événement. Mais bref, ça fait longtemps que je le suis sur Twitter. Et puis, je vais consulter son blog à l'occasion, mais pas nécessairement très souvent parce que c'est un gars quand même qui agit dans le milieu des relations publiques. Fait que je suis pas spécialiste en relations publiques, sauf que son input est assez intéressant. C'est un gars très dynamique, très intéressant. Il y a un livre qui a sorti il y a 2 ans qui s'appelle Now is Gone. Donc, si vous êtes dans le milieu du PR, ça risque de vous intéresser. Allez acheter ça. C'est encore d'actualité. Malgré bon, que ça fait 2 ans et que tout évolue à une vitesse fulgurante au niveau de l'Internet. Le dîner en lui-même était intéressant parce que, bon, Adele McAleer nous avait invités. Qui y avait là? Ben, il y avait C.T. Moore qui était aussi conférencier au Third Tuesday. Il y avait Kim Vallée, évidemment. Il y avait aussi son émergence, M. Claude Malaison. Il y avait Sébastien Provencher ainsi que quelques autres personnes que, bon, j'oublie le nom malheureusement. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que, bon, moi, je le connaissais un peu comme ça, Geoff Livingston, mais lui aussi me connaissait. En fait, on a collaboré tous les deux pour la même entreprise, moi sans le savoir, qui travaillait avec eux. Donc, j'ai travaillé, il n'y a pas si longtemps que ça, à définir l'empreinte dans les médias sociaux d'une grande entreprise. Et j'ai fait ça, bon, en collaboration avec une compagnie, une firme spécialisée en médias sociaux. Donc, j'ai offert mes services comme ça. Et puis, donc, ça a été assez intéressant comme projet. Je suis arrivé à des conclusions intéressantes aussi. Ce qui est drôle, c'est que Geoff a non seulement entendu parler de moi, a non seulement entendu parler que j'avais travaillé sur ce projet-là, mais en plus de ça, il a lu le rapport et il m'a complimenté en disant que j'avais fait un travail absolument impeccable, que c'était excellent. Donc, ça m'a vraiment surpris. Je crois que ça a surpris aussi une couple de personnes comme ça. Mais c'était vraiment sympathique. Puis le gars, c'est un gars hyper sympathique. Écoutez, si vous pensez que les gens de PR sont straight, regardez ce gars-là. Il a le crâne rasé. Il est vraiment Mr. Cool. Imaginez Julien Smith, pas de cheveux, qui fait du PR. Ça ressemble pas mal à ça. Et puis, ben, Geoff, étant donné qu'il vient de Washington, puis si vous le savez, les expos ont déménagé à Washington, il s'est acheté une casquette des expos pour aller voir les matchs de l'équipe de baseball là-bas. C'était assez drôle, c'était assez sympathique. Je vous mets les liens dans les notes de l'émission. Laissez-moi vous parler un petit peu de Audioboo, mais c'est une application faite pour le iPhone. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça enregistre de l'audio, donc vous pouvez enregistrer de l'audio jusqu'à 5 minutes. Et on le sait, bien, la qualité du iPhone est assez bonne pour enregistrer votre voix, que ce soit directement sur l'appareil ou avec vos écouteurs qui ont un micro intégré. Ça peut être aussi une bonne façon de faire et ça donne une assez bonne qualité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce 5 minutes d'audio-là? En fait, vous ajoutez une image, vous ajoutez des méta-tags, vous ajoutez un titre, une description, tout ça, et vous envoyez ça au service de Audioboo. Donc, c'est sûr qu'il faut que vous vous soyez inscrit auparavant au service de Audioboo. Il faut que vous ayez configuré un profil. Mais après ça, vous mettez en lien votre profil Twitter. Donc, à chaque fois que vous publiez sur cette plateforme-là un fichier audio, ça envoie un message dans Twitter. Donc, vous avez plus de chances que les gens l'écoutent de cette façon-là. Ensuite, cet audio-là est publié dans un fil RSS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est un podcast. Donc, à partir de votre iPhone, de façon absolument libre, vous pouvez publier un podcast jusqu'à 5 minutes. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas en faire si vous avez quelque chose à dire. Ça simplifie le processus. Il faut dire que l'application a des ratés. Elle plante souvent. Moi, ce que j'ai fait, j'ai appris assez rapidement parce que lorsqu'elle plante, on risque de perdre son audio. Ce que je fais, c'est que j'enregistre l'audio, je quitte, et quand je reviens, l'audio est toujours là. Parce que sinon, si pendant qu'on est en train d'ajouter un titre, une photo, des méta-tags, l'application plante, puis on n'a pas quitté, ça n'a pas gardé en mémoire, et on perd tout son audio, on doit recommencer. Donc, c'est la façon que j'ai trouvé de contourner le problème, et ça marche quand même assez bien. Ce qui arrive, c'est que, dépendamment de votre connexion, parfois, pouvoir déposer le fichier directement sur votre site, sur votre profil, ça peut être difficile, ça peut être long aussi et ça bouffe de la batterie, c'est absolument incroyable. Sauf que c'est une belle façon de s'initier au podcasting et voir si vous aimez ça avant de vous acheter un gros setup, une grosse installation à la maison. Il y a une compagnie qui s'appelle Volumedia qui détient un brevet sur le podcasting. En fait, leur brevet date de 2003 ou 2004, si je ne me trompe pas. 2003. Et puis, couvre pas nécessairement juste le podcasting, mais tout ce qui s'apparente au podcasting. En fait, leur brevet couvre la distribution de fichiers médias et la réception de fichiers médias épisodiques. Donc, toute la mécanique du podcasting, c'est-à-dire que quelqu'un publie des fichiers sous forme d'épisodes, que ce soit attrapé par une application, ces épisodes-là, par les auditeurs, et que l'auditeur puisse définir à quelle fréquence il va vérifier, l'application vérifie s'il y a des fichiers audio. Donc, tout ça est géré par ce brevet-là, est couverte par ce brevet-là. Donc, c'est un petit peu large parce que ça couvre autant le podcasting qui, en ce moment, distribue des fichiers médias par un fil RSS, donc c'est la mécanique via un agrégateur. Donc, ça couvre ça. Ça couvre aussi d'autres formes de distribution qui seraient ultérieures au podcasting. Donc, c'est un petit peu large. Je vois mal comment ils pourraient appliquer ça. D'ailleurs, la compagnie a dit qu'ils ne poursuivraient personne. Aucun podcaster serait poursuivi pour l'usage de la technologie. Et j'espère, parce que le problème, c'est que le podcasting a été inventé en 2001. A été inventé avant que cette compagnie-là dépose le brevet. Et ça n'a même pas été inventé par eux. Ça a été inventé par Dave Winer. D'ailleurs, j'en parle sur phono.ca. J'ai écrit un billet là-dessus si ça vous intéresse d'aller le lire. Je fais un peu l'histoire, la petite histoire du podcasting à travers le temps depuis les 5 dernières années et même au-delà de ça parce que le podcasting a été inventé, comme je vous dis, en 2001. Donc, c'est quoi les implications s'ils ne décident pas de poursuivre les podcasters indépendants? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, je pense que ça sert d'outil de négociation avec de grandes entreprises. Entre autres, avec qui? Avec iTunes. J'ai lu à quelque part d'ailleurs qu'il avait annoncé qu'il était en négociation avec iTunes. Il faut dire que la compagnie Volumedia a mis au point un plugin qui a été rendu disponible en juin dernier. Donc, ce n'est pas nécessairement un hasard s'ils ont annoncé qu'ils détenaient un brevet qui couvrait le podcasting. Vous pouvez être sûr, étant donné que le plus grand agrégateur, le plus populaire en fait, agrégateur de podcasts étant iTunes. Donc, qu'est-ce que fait leur plugin pour iTunes? Ben, c'est bien simple. Ça permet aux auditeurs de partager des podcasts avec d'autres auditeurs, avec d'autres utilisateurs du logiciel iTunes. Ça permet quelques petites choses comme ça, mais le bénéfice est surtout du côté des producteurs de podcasts, des producteurs de contenu. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'avoir de vraies statistiques. Parce que le problème avec iTunes, évidemment, c'est que lorsque les fichiers audio sont téléchargés, on ne sait pas si les gens les ont réellement écoutés. S'il y a des façons de savoir si les gens écoutent sur votre site web directement ces fichiers audio-là, il n'y a aucun moyen de savoir si les gens qui ont téléchargé dans iTunes ont réellement écouté. Et ça crée un problème parce que, bon, certaines personnes disent que les fichiers audio ne sont pas nécessairement écoutés de la part des auditeurs, ce qui est, bon, moi je pense que ce n'est pas nécessairement vrai, dû aux habitudes de consommation de podcasts des gens qui sont abonnés, mais bon, ceci dit, ça peut être intéressant. Donc, est-ce que ça fera partie de iTunes? Est-ce que c'est une stratégie aussi de Volumedia pour que finalement Apple rachète leur compagnie? Ça pourrait être une très, très bonne stratégie. En tout cas, moi, j'essaierai à leur place de me faire racheter par Apple parce qu'ils risquent d'avoir un meilleur prix que si n'importe quel autre financier les rachète. On est rendu à la deuxième partie de ce podcast. Où est-ce que je vous fais jouer cet audio enregistré en France? Avec qui? Ben, avec des podcasters, avec des gens de médias sociaux, des gens très, très, très sympathiques. Je vous laisse écouter ça, peut-être que je vous mettrai des petits commentaires entre les fichiers audio. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des commentaires sur le Québec en balado-diffusion, ben c'est simple. Allez sur québecbalado.com, puis allez faire un commentaire directement là. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel québecbalado@commercial.gmail.com. Eh bien, on se reparle très bientôt. Je vais refaire une autre émission dans un futur très prochain. À bientôt!
Je te dois rien,
rien,
je t'emmerde, et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses, et je te dois rien,
rien,
je t'emmerde, et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses. Les concessions, les désaccords, les raccords, les ratures, et les pensées à la négoce, les cons s'en sortent, les cons s'en sûrent, mais je ne suis pas à négocier, et je n'ai pas de compte à rendre, nos servitudes sont du passé, ne va pas te méprendre, je te dois rien,
rien,
je t'emmerde,
je t'emmerde,
et je me dispense bien de savoir ce que t'en penses.
Donc, mon premier invité pour cette portion France du Québec en balado, diffusion numéro 53, ben, vous le connaissez déjà, il s'appelle Pierre Journel. Il a déménagé à Paris il n'y a pas longtemps, il était à Montréal et podcaster émérite depuis 3-4 ans maintenant, peut-être 4 ans, oui. Donc, je vous laisse avec ça et je vous reparle tout de suite après. Je suis ici même en pleine banlieue d'Aix-en-Provence avec une voix connue, Monsieur Pierre Journel. Salut Pierre.
Et comment ça va? Oui, ça va bien?
Ben, ça va bien, les vacances, et puis il fait beau. Et toi-même, qui as pris le TGV quand, aujourd'hui?
Eh bien, ce matin même, dès que j'ai su que tu étais dans la région, puis qu'il y avait quelques podcasteurs célèbres, ni une ni deux, j'ai même pas pris le temps de convoquer le ministre des Finances, d'ailleurs, qui me l'a vertement reproché, mais je suis quand même là ce soir, je suis bien content.
Elle te l'a reproché, comment t'as reçu un mail sur ton iPhone, et puis...
Non, mais disons que le soir où je lui ai dit « Tiens, j'ai pris un billet de TGV pour aller à Aix pour voir des copains », il me dit « Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Enfin bon, ça s'est arrangé depuis tout ça, donc tout est...
Vous vous êtes réconcilié, puis...
Ouais, pas de problème.
Donc on s'est parlé il y a quoi, 6 mois exactement environ, en décembre, et puis on était à Montréal. Maintenant, 6 mois après, ta réadaptation en France, ça se passe bien?
Bah écoute, oui, ça se passe plutôt bien. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois à l'intérieur du PCC. Faut dire, peut-être je m'étais préparé à quelque chose de tellement difficile que je trouve ça plutôt facile de me réadapter. La partie qui est difficile, c'est plus gérer se mettre en règle au niveau de toutes les administrations. Ça, c'est vraiment pénible. Mais je dirais, sinon, ce qui est essentiel, c'est se réadapter à la vie parisienne, au rythme, se réhabituer au français aussi, tout ça quand même.
Ça c'est pas facile.
Hein. Écoute, c'est pas une perche que je te tendais, c'était un tronc d'arbre là.
Oui, un bio. Oui.
Donc non, écoute, à date, ça se passe plutôt bien, à part que bon, évidemment, on est arrivé en plein milieu de la crise, donc moi, au niveau boulot, c'est la zone totale, mais ça a des bons côtés aussi. Hein. Je profite de mon épouse, de mes 3 enfants, j'ai fait 14 minutes de moins à mon dernier marathon, donc tu vois, ça a des bons côtés, la crise, hein, quand même. Hein.
Oui, quand même. Et puis, t'as pas réduit le rythme de podcaster, tu continues à produire ton émission une fois par semaine, et en plus, tu t'es ajouté une deuxième table.
Et voilà, exactement. Je ne savais pas trop quoi occuper mon temps, donc j'ai lancé un podcast qui parle que de guitare, donc à lachaîneguitare.com, et j'ai bien du plaisir avec ça, parce que ça a toujours été une de mes passions depuis très longtemps, la guitare, et Dieu sait si le podcast est super adapté à un média, à un thème comme ça très niche. Et j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer quelques grosses pointures, et moi, rencontrer des musiciens, c'est un vrai bonheur, quoi.
Mais c'est ça, je partais pour te dire, tu as la chance de rencontrer tes idoles, finalement, avec une initiative comme ça.
Tout à fait. Pour l'instant, j'ai eu pas mal de... Ça s'est fait relativement rapidement avec le gratin des guitaristes français. Le plus difficile, c'est d'avoir le email ou le téléphone portable de la personne. Après, il faut juste établir une date, puis ça se fait très bien. Mais la partie difficile, c'est d'établir le contact là. Bon, donc sur les guitaristes français, ça se fait assez bien. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur Joe Satriani, là, qui a un gros morceau. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais bon, c'est pas toujours des gens qui sont très, très joignables aussi, quoi. Mais même, c'est rencontrer des guitaristes moins connus, là, c'est toujours des échanges. Moi, il y a un passionné qui parle de guitare, un autre passionné qui parle de guitare, c'est que du bonheur, quoi.
Est-ce que vous avez aussi des conversations hors micro avec les guitaristes? Comme par exemple, c'est sûr que tu fais l'entrevue, tout ça, mais lorsque le micro est fermé, est-ce qu'il y a autre chose qui ressort de ces rencontres-là ou tout se dit pas mal à l'intérieur de l'entrevue?
Ça dépend des fois. Il y a eu des cas de figure où... c'était calibré, j'avais droit à 20 minutes avec la personne, donc là je faisais 20 minutes d'interview et puis j'avais pas le temps de parler d'autre chose. Il y a eu des cas où bon, on discutait un peu, j'expliquais ce que je faisais avec la chaîne guitare, puis hop, on commençait l'interview, et puis après il y avait d'autres choses qui sortaient qu'il avait pas voulu dire en interview, des choses comme ça. Mais en général, moi je fais des entrevues de 20 minutes, une demi-heure, et puis jusqu'à présent j'ai toujours tout gardé, j'ai jamais fait de coupure, et à la réécoute ça se passe très bien, parce que encore une fois, évidemment, moi je connais bien mon sujet parce que je fais de la guitare depuis 25 ans, donc moi les questions elles me viennent assez rapidement, et puis bon, j'ai quand même un canevas de questions assez pas fixe, mais enfin en tout cas des points de repère que je repose justement à chaque fois, parce que c'est intéressant de poser les mêmes questions à des musiciens différents pour voir comment ils vont répondre et quels sont les éléments qu'ils vont apporter.
Puis, qui a été ton préféré dans tes rencontres, ou quelle rencontre a été la plus intéressante pour toi?
Bah, moi, c'est un guitariste qui s'appelle Louis Bertignac, qui est un musicien que tous les Français connaissent forcément, puisqu'il a joué avec Téléphone. Et Téléphone, qui était un groupe mythique dans les années fin des années 70, 80, jusqu'en dans les années 90, en fait. Et bah, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, parce que lui, il fait une carrière solo maintenant, il joue en power trio. Et je lui ai envoyé un email, deux jours après, il m'avait répondu. Et puis finalement, hop, j'ai pu l'interviewer lors d'un concert qu'il a fait en plein air. Et puis là, c'est pour moi, là, c'était vraiment... moi, j'ai quasiment commencé à jouer la guitare en m'abîmant les doigts, en essayant de déchiffrer ses riffs sur des magnétos. Donc l'interviewer, là, c'était un grand moment. Puis en plus, on a eu un bon échange, c'était vraiment sympa.
Et puis, pour revenir au podcasting, tu as démarré, comme à Montréal, on faisait on fait toujours des pods Montréal. Tu as démarré Pod Paname. Il y a eu quoi? Deux épisodes? Ben, pas deux épisodes, mais deux soirées.
Ouais. Ben, il y a eu la première rencontre qui a eu beaucoup de succès. On était quoi? Une 15, 18 personnes, quelque chose comme ça. Il y a même des gens autour de la table qui sont venus à Paris. La deuxième rencontre, il faut dire, je pense que j'avais assez mal choisi la date. C'était au moment des vacances de je sais plus quoi. On a beaucoup de vacances en France. Hein.
Et ah oui?
Ouais, tout à fait, ouais, c'est un scoop. Et je pense que la prochaine édition, je ne suis pas sûr s'il y en aura un avant la rentrée, mais je ferai probablement un thème un peu comme tu faisais à l'époque à Pod Montréal, où c'était bon, bah ok, là on va parler de musique, on va parler de production, etc. Et puis probablement là, les gens seront peut-être moins timides à venir et puis à écouter, bah, je ne sais pas, par exemple, comment est-ce qu'on fait un podcast un peu pour démystifier ça ou bon, sur des thèmes plus larges, quoi.
Des fois, juste pour te dire, nous, à Montréal, ce qui fonctionne, c'est parfois on rentre dans un certain cercle de personnes qui sont reliées au web 2.0. Puis certaines fois où est-ce qu'on a eu beaucoup de gens, comme on l'a refait à l'endroit où est-ce qu'on l'avait fait avec toi, et une fois, on a eu presque 50 personnes. C'était assez phénoménal, qui a été, je pense, la fois où est-ce qu'on a eu le plus de gens. Et la fois subséquente, on a changé d'endroit, on a changé de journée, tout ça. Et on s'est retrouvé, je ne suis pas sûr qu'on était 10 personnes. Donc, c'est toujours comme ça. Ça varie toujours un peu. Puis, il y a des réguliers qui partent, qui reviennent. C'est un peu ça au fil du temps. Il faut d'ailleurs qu'on en fasse un autre très bientôt. Donc, tu ne sais pas quand tu le feras, mais ça va se poursuivre, Pod Paname.
Oh oui, ça va se poursuivre, parce que c'est quand même pas très très compliqué à organiser. Il faut juste fixer une date et puis faire circuler, quoi. Et la chose qu'on fera probablement plus pour la prochaine fois, c'est d'établir un thème justement pour peut-être qu'il y ait un intérêt supplémentaire, puis que les gens arrivent soit avec un petit peu de contenu à partager pour dire bah moi voilà telle chose je la fais comme ça, ou alors avec des questions bah tiens ouais on parle de ça mais ça exactement tu le fais comment et tout.
Mais pour l'instant tu t'en occupes tout seul.
Oui, je m'en occupe tout seul, mais enfin bon, c'est pas grand-chose. Hein. Je t'ai demandé à toi et puis à Laurent de mitonner un petit logo. J'ai ouvert un blog sur Blogger et puis j'ai fait du buzz à travers Twitter et compagnie là, pour faire connaître à travers tous mes petits amis podcasteurs dans le coin. Hein. C'est pas non plus une multinationale. Hein.
Non, c'est sûr, mais quelque chose qui nous aide parfois, par exemple pour Pod Montréal, c'est le fait qu'on est trois. On a des shows très différents, puis en même temps, Bob est anglophone. Donc, communauté anglophone, communauté francophone, le mix d'avoir plusieurs personnes qui en parlent dans différents créneaux, ça aide parfois à faire connaître. Penses-tu essayer de t'adjoindre d'autres podcasteurs pour aider à faire en parler?
Moi, ça serait avec grand plaisir. Le problème, c'est que je ne connais pas d'autres podcasteurs sur Paris, quoi. Donc, ceux qui sont venus, il y en a un qui est venu de Belgique. Non, j'exagère, il y en a quand même quelques-uns, quoi. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus, quoi. Mais ouais, c'est une très bonne idée, ouais.
Ouais, mais surtout que c'est ça. Toi, tu es un vieux de la vieille au niveau podcasting, mais tu es un nouveau podcaster parisien. La communauté, c'est de l'amadouer et d'entrer dedans, j'imagine.
Ouais, puis il y a une communauté, je pense, blog, internet, qui est très vivante, très active sur Paris, que moi, je connais pas ou très peu, quoi, puis qui me connaissent pas du tout non plus. Donc, du coup, moi, j'y suis pas dans cette sphère-là encore. Hein, donc, peut-être ça viendra, peut-être ça prendra du temps, quoi. Mais bon, l'idée, c'est d'avoir des rencontres quand même assez informelles et avec un impact assez faible. Hein, c'est pas un podcamp, hein, c'est un bar, deux, trois bières et roule ma poule. Hein, c'est ça, hein, le principe. Hein.
Ouais, 2-3 bières et surtout roule ma poule, c'est ça? Penses-tu que la prochaine fois qu'on va se rencontrer, ça sera quoi? Tu vas revenir faire un tour à Montréal, ça sera moi qui reviendrai à Paris, on sait pas, hein?
Bah écoute, je sais pas, tu m'as pas dit que tu me payais le billet d'avion pour le prochain podcamp Montréal? T'as dit ça tout à l'heure, là, entre deux verres de rosé.
Ah oui, rosé, hein? Eh bien, les effets du rosé du sud de la France sont assez pervers. Sinon, si tu veux dire bonjour à tes amis podcasteurs québécois, c'est le temps ou jamais.
Bah oui, je salue tous mes petits amis podcasteurs et auditeurs du Québec. Hein. C'est 11 belles années qu'on a passé, moi et ma petite famille là-bas, et c'était bien plaisant et ça reste une place importante dans ma vie, il n'y a aucun doute.
Je vais le redire encore, quand tu as quitté le Québec, on a perdu le podcaster francophone qui avait le plus d'émissions en arrière de la cravate. Au Québec, c'est vrai, c'est quand même vrai. Donc, tu as fait presque 200 émissions au Québec, 190 environ, 195. Ouais, tu as passé le cap du 200 après, donc malheureusement, mais bon, on va essayer de prendre la relève et avoir un rythme plus régulier.
Ouais, t'es capable, Sylvain, il n'y a aucun problème avec la puissance du Québec balado, là où tu fais genre 5 fois mes downloads, il n'y a aucun problème. Hein.
Bien sûr. Donc, je te remercie, Pierre, à bientôt.
Merci, Sylvain, à bientôt, puis rentre bien au pays, alors. Hein.
Ah, il faut.
Deuxième invité, c'est Pierre Fosco. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Fosco, mais c'est un podcasteur français. Il a fait différents podcasts. Il va nous en parler aussi. C'est celui des deux provençaux qui avait l'accent le plus prononcé, je dirais. Et aussi, c'est celui qui avait le plus de difficultés, je crois, à comprendre mes expressions. Donc, je te salue, Pierre. J'espère que tu écoutes encore une fois, que tu écoutes mon podcast. Puis, j'espère que tu auras tout compris ce que j'ai dit dans cette émission.
Bon appétit.
On est avec la deuxième moitié du duo de podcasteurs dont on parlait tout à l'heure, mais que lui a continué à faire du podcasting. On est avec Pierre Fosco. Bonjour Pierre.
Bonjour Sylvain.
Alors, tu vas nous expliquer ton parcours un peu dans le domaine du podcasting.
Mon parcours a commencé avec Frédéric Gallinet, donc, que tu as rencontré tout à l'heure. On a monté un podcast ensemble qui s'appelait Povcast. Puis le truc s'est un peu essoufflé. Puis il a eu l'idée de propulser une des rubriques du podcast, parce qu'au départ, les playlists, c'était une des rubriques de Povcast. Et de propulser donc ces rubriques comme une émission en tant que telle, qui est devenue Music Please, qui depuis 3 ans donc, distribue en podcast toutes les quinzaines une playlist mixée aux platines.
Donc, c'est un podcast qui est dédié entièrement à la musique. Est-ce que tu interviens beaucoup dans le podcast ou est-ce que c'est... comment ça se passe? Comment ça se déroule l'émission?
Ben, j'interviens un peu à tous les niveaux. Donc, du moment où je vais ouvrir un magazine pour commander mes disques ou du moment où je vais ouvrir ma boîte aux lettres et recevoir les disques que les labels m'envoient jusqu'au moment où je vais les mixer, où je vais les commenter. Donc, il y a un aspect rédactionnel. Puis le moment où je vais... monter l'émission, la diffuser, faire le billet, les billets associés aux émissions. Donc j'interviens à tous ces niveaux, que ce soit les oreilles, la bouche, les doigts. J'utilise tout mon corps pour Music Please.
Et puis tu disais, tu reçois de la musique dans ta boîte aux lettres. Les labels vous envoient de la musique?
Absolument. Les premiers à nous avoir envoyé de la musique, qui nous ont fait confiance, c'était le label Naïf notamment, ou alors le distributeur Nocturne qui depuis a fermé. Alors depuis, c'est plein de petites sociétés indépendantes qui, avec le déclin, la crise de la musique actuelle, c'est plus des petites sociétés de promotion qui travaillent pour des gros labels, qui elles-mêmes donc, nous envoient des disques. Et maintenant, au début, on n'avait que des labels indépendants. Maintenant, même Sony ou EMI nous envoient aussi quelques temps des disques à diffuser. Ou, après, c'est à nous de décider ou pas de les diffuser.
Et est-ce que vous diffusez surtout de la musique française ou c'est peu importe selon ce que vous recevez?
Alors, la musique française au sens propre, oui, dans le sens où on diffuse de la musique internationale, mais la musique française, si on regarde Phoenix, Daft Punk, General Electric, qui sont des groupes qui cartonnent au niveau international, on en diffuse. Et des musiques francophones, on en diffuse aussi, à un niveau un peu plus restreint, puisque la production francophone, elle n'est pas non plus, à mon goût, extraordinaire. Et comme le podcast s'inscrit dans une démarche de musique urbaine, entre guillemets, parce que l'idée, c'est de mixer des disques, donc il faut que ce soit quand même mixable. La variété ou la folk, la chanson ne sont pas toujours très mixables. Donc, oui, on diffusera de la musique française, mais souvent quand même du hip-hop, du rap français, plus que de la chanson française ou de la pop.
Et comment se déroule l'émission? Est-ce que tu parles un peu au début, tu présentes ta playlist et tu fais jouer d'un bout à l'autre ou y a des segments où est-ce que tu parles entre les chansons?
Alors justement, l'idée, c'est de ne pas interrompre la playlist. Donc durant par exemple, un quart d'heure, 20 minutes, les morceaux seront mixés et enchaînés, une étape qui se réalise au préalable. Et par-dessus, donc, je vais monter ma voix. Je vais donc coller entre chaque chanson à un moment où j'essaye de ne pas nuire. Parce que déjà que c'est un extrait, si je parle au moment où le morceau attaque, ça va gâcher un peu l'écoute. Donc j'essaye de trouver le moment le plus propice pour commenter le disque en question.
OK, donc la musique est continue à jouer en background pendant que tu parles.
C'est ça, ouais, en tapis sonore, pendant que je commente, on a la musique évoquée qui continue.
Donc c'est un peu à la DJ, dans un sens.
Absolument, ça vient de là, c'est ma formation et on essaye de retrouver ce savoir-faire, d'appliquer ce savoir-faire au podcasting.
Et puis, est-ce que, bon, comme tout le monde, tu es aussi actif sur le web, tu es sur Twitter, je pense. Quelles sont tes autres activités sur le web?
Alors, mon essentielle activité sur le web, c'est Music Please, qui évidemment essaye d'être ouvert à 360 degrés. Donc, on réseaute un petit peu sur Facebook, sur Twitter. Mais sur le web, c'est là qu'on pourra me rencontrer, ou du moins, c'est le seul moyen que j'ai pour m'exprimer, c'est ce blog, ce podcast. Après, j'ai mon petit Facebook perso pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur mes activités connexes de DJ. Mais le web, c'est Music Please.
Donc, l'adresse, c'est musicplease.com, j'imagine?
www.musicplease.com, musique avec un K. On peut s'abonner via iTunes et l'écouter sur son podcast en tapant Music Please dans la barre de recherche du iTunes Music Store. Et voilà. Donc, et depuis aujourd'hui, grâce à Pierre Journel, avec qui on a bien mangé tout à l'heure, et Frédéric Galinet, ils ont eu l'idée brillante et on a réussi à introduire le player Music Please directement sur Facebook. Donc, depuis aujourd'hui, Music Please est sur Facebook en lecture directe, sans quitter Facebook.
Donc, on va conseiller à tout le monde, ceux qui adorent la musique, d'aller jeter une oreille. Il y a sûrement mon collègue Laurent Lassalle, je ne sais pas si tu le connais, qui a aussi un podcast de musique au Québec. En tout cas, bref, je vais lui dire d'écouter, puis tu iras faire l'écoute du sien aussi.
Ça va, mais écoute, ce sera avec plaisir et j'étais ravi de répondre à tes questions, Sylvain.
Et si vous venez faire un tour au Québec, autant toi que Frédéric, envoyez-moi un mail, quelque chose, on fera quelque chose.
Avec grand plaisir, surtout que tu nous as parlé de comment construire un habitat à moins 20 degrés, donc on va tester ça dès que possible.
Oui, c'est à essayer. Ciao.
Le troisième invité, c'est Frédéric Galinet. Il a animé un podcast avec Pierre Fosco il y a un certain temps, que j'avais déjà écouté à quelques reprises. J'étais pas un adepte, un fervent, parce que évidemment, C'est très culturel. Il parlait de choses vraiment très reliées à ce qui se passe en France. Donc, ça me touchait peut-être un peu moins. Mais bon, c'est un gars extrêmement sympathique. C'est un gars start-up, en fait. Il fait des start-up. Puis vous allez entendre c'est quoi son nouveau projet. Un projet assez intéressant qui risque de vous allumer. Qui n'est pas sans rappeler le service K7 aux États-Unis que j'ai déjà utilisé. Je vous laisse avec Frédéric et je vous reparle tout de suite après.
Donc, je suis avec un local, un habitant local de la région d'Aix, un sudiste, M. Frédéric Galiné. Bonjour, Frédéric.
Bonjour à tous tes auditeurs. Bonjour à tout le Québec.
Donc, toi, est-ce que, t'es actif sur le web beaucoup, donc qu'est-ce qui t'a amené beaucoup sur le web? Est-ce que c'est le podcasting ou t'étais déjà très actif sur le web avant?
Non, c'est arrivé avec le podcasting en 2005. On a commencé une émission avec Pierre Fosco qui est là, qui s'appelait Podcast. C'était une émission un petit peu décalée, un talk show. De là, on a continué, on a fait Music Please. Et comme à cette époque-là, il y avait très peu de solutions vraiment adaptées au podcasting, chacun bricolait dans son coin, on a monté une plateforme dédiée au podcasting qui s'appelle WidePoint TV. Et qui est une plateforme d'hébergement audio et vidéo et qui optimise tout le podcasting pour le rendre standard, on va dire.
Donc, c'est depuis quand, tu dis, depuis quelle année que vous avez lancé ça?
On a commencé en 2005, au tout début du podcasting.
Ok, c'est là depuis 2005, quand même. Et puis, ça t'a amené à faire plein d'autres choses sur le web, j'imagine. Ça a été le point d'entrée?
Voilà, donc on a créé une première société qui s'appelait Podcom et là, très récemment, je viens d'en créer une seconde qui s'appelle Tempolib et c'est un tout nouveau concept qui n'a rien à voir avec le podcast. C'est un concept de numéro de téléphone jetable pour les gens qui passent des petites annonces ou qui vont sur des sites de rencontres et qui ne veulent pas donner leurs coordonnées réelles pour ne pas être embêtés, on va dire. Et donc, ils ont la possibilité d'acheter un numéro de téléphone jetable à usage unique, on va dire.
D'accord. Donc, est-ce que ces numéros-là sont reliés à une région précise de la France ou...
Alors, pour l'instant, c'est disponible qu'en France, puisqu'il va falloir s'adapter à chaque pays pour les normes, pour les numérotations, pour tout ça. Mais on va internationaliser la plateforme.
C'est intéressant. Il y a des services un peu similaires qui existent aux États-Unis. Bon, ce que les podcasteurs utilisent, sont les numéros 206. Je ne sais pas si tu connais.
Non, je ne connais pas. Alors, je sais qu'il y a Google qui va lancer Google Voice. Ils ont racheté Grand Central. Disons que le concept, c'est un petit peu un numéro permanent qui renverrait sur tous les numéros. Nous, on sait faire ça, mais c'est plus sur du numéro temporaire. On a besoin pour passer une petite annonce d'un numéro. Voilà, on achète un numéro, on vend son appartement. Dès que l'appartement est vendu, on jette le numéro.
OK. Comment ça fonctionne? Il y a une boîte vocale sur le numéro et puis les appels sont renvoyés vers un téléphone fixe ou un portable?
Voilà, c'est exactement ça. On achète un numéro et ce numéro renvoie à la fois vers un fixe et un mobile. On décroche sur le téléphone qu'on veut. Ce numéro, on peut le paramétrer. Par exemple, dire « je veux que ça sonne de 8h à 19h et pas le week-end ». Et en dehors de cette plage horaire, ça va sur une boîte vocale. Donc, on ne perd pas les appels ou les prospects. On les recevra par mail. On reçoit tous les messages par mail et on peut traiter la demande ultérieurement.
Donc, est-ce que c'est live maintenant? C'est commencé? Il y a des numéros qui se vendent ou c'est...
Ben, ça a démarré il y a très très peu de temps, ça a démarré il y a 4 semaines, donc là ça y est, ça a démarré, on a des clients qui commencent à arriver, qui sont intéressés, et on a gagné très récemment, la semaine dernière, un concours en France, la Startup Academy organisée par Sun, Orange, et Jean-François Ruiz et son équipe.
C'est intéressant. Et puis, pour revenir au podcasting, est-ce que tu fais toujours du podcasting pour l'instant ou c'est un peu mis de côté, ça te dort et tu as des idées dans ta tête?
Non, là pour l'instant ça dort vraiment parce qu'avec deux sociétés c'est dur de tout gérer, donc plus trop le temps. Je continue à m'occuper de Music Please avec Pierre, mais je suis pas derrière le micro, je m'occupe plutôt du site et de tout ce qui est maintenance, etc. On a créé pas mal de plugins aussi pour optimiser par rapport à l'émission de Pierre, pour que les gens puissent acheter les disques qui sont diffusés, etc., etc. Donc moi je m'occupe de toute la partie technique, on va dire.
Ben merci beaucoup, ça a été intéressant. Puis juste pour dire aux gens, toi tu habites vraiment dans la région du sud de la France, t'es pas arrivé par TGV aujourd'hui, tu es quelqu'un du coin. T'habites dans quel coin déjà?
Alors moi j'habite à Miramas, c'est au-dessus de l'étang de Berre, à 40 km de Marseille, voilà.
Donc ben merci beaucoup de t'être prêté au jeu du micro et puis à très bientôt.
Eh bien merci à toi et à très bientôt.
Swinging bell the round the room. My tune dancing doo doo. Bang a doo, burn up gong and light a boo. Bell be swinging round hey doo. Pas fini ma vie à Singapour. Je suis au déco, manger des petits fous. Moi je veux être idiot, triple menti de haut. Gollé comme une triplette de Belleville.
Le dernier invité, mais c'est Alain Thomas. Vous le connaissez peut-être. Il fait, entre autres, Pomme Happy et Palmipod. Donc, il habite dans la région de Bordeaux. Moi, je le connaissais. Bon, je crois qu'il a déjà commenté sur mon émission. Si ce n'est pas en audio, il le fait aussi sous format texte. On se connaît un peu comme ça. J'écoute aussi ce qu'il fait. Bon, c'est assez intéressant. Et ce qui m'a surpris de lui, de Alain, c'est que... Outre le côté très posé de sa voix qui inspire, je crois, le sérieux quand même, lorsqu'on l'entend, en personne, ce gars-là, c'est, comme on dit ici, c'est un bout en train, c'est un gars hyper sympathique, hyper rigolo, pince sans rire un peu aussi. Donc, ça a été une surprise pour moi, je m'attendais presque à un monsieur très sérieux et non vraiment très sympathique. Puis ce qui est drôle, c'est que bon, c'est un gars de Bordeaux, mais il y avait un truc au niveau business dans la région provençale à Manosque, et puis ben il s'est joint à nous. On a fait concorder tous nos agendas. On s'est retrouvé un lundi soir, c'est peut-être difficile pour veiller un lundi soir, surtout pour Alain qui devait conduire jusqu'à Manosque ce soir-là. Donc, on s'est quitté, il était quoi, près de minuit à Aix. Et puis, ben, c'était un événement assez intéressant, assez le fun, je dois dire. Puis, si je retourne en France, c'est sûr que je ferai signe à ces gars-là. Donc, je vous laisse avec cet audio-là de Alain.
Bell be swinging round, swinging bell be round the groove. My tune dancing do do.
Je suis avec Monsieur Alain Thomas, et ben, je me tromperai pas de nom comme a fait Pierre Journel. Comment il t'avait appelé déjà?
Ah, il m'a appelé Bernard, vous me le faites encore redire. Il m'a appelé Bernard, oui, effectivement.
Le sale con.
Bernard de Palmipod.
Ouais. Comme si il te connaissait pas déjà. Ouais, voilà. Donc, oui, tu l'as dit, de Palmipod et de Pomme Happy.
De Pomme Happy, oui. Et de Pomme Happy, tout à fait.
Depuis combien de temps exactement tu roules avec ça?
Palmipod 3 ans au mois de mai, ça a fait, et puis Pomme Happy, un an, ça fera 2 ans en septembre, je crois, c'est ça, voilà.
Je me rappelle que Palmipod, t'avais démarré à peu près, bon, on a démarré tous les deux à peu près en même temps, moi en juillet, toi c'est quoi, en juin,
non, c'est
en mai?
Ouais, mai, okay. Mai 2006.
Et puis, on est tous les deux des podcasters intermittents, je dirais.
Intermittents du podcast, oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai sous-titré, d'ailleurs, c'est marqué dessus, c'est le podcast quasi hebdomadaire, donc j'ai pas menti pour l'instant.
t'as tenu le rythme quasi hebdomadaire.
Absolument, 52 numéros, je crois, en 3 ans, donc contrat rempli.
Donc, Palmipod... Qu'est-ce qui t'a amené au podcasting, en fait, à l'époque? Pourquoi t'as démarré Palmipod?
Alors en fait, c'est parti d'un collègue de travail, méchamment geek, qui m'a parlé de ça. J'ai entendu ce terme-là, je ne le connaissais pas. Et il m'a expliqué, mais si tu vas sur iTunes, etc., enfin, si tu as un iPod, alors tout ça, j'avais un petit shuffle, moi, à l'époque. Et il m'explique un petit peu, et surtout, il a mis en avant quelques émissions que j'aimais beaucoup, genre 2000 ans d'histoire, etc. Alors tout de suite, ça a fait tilt. C'est des émissions que je ne peux pas écouter parce que je suis généralement au boulot quand elles se passent. Et donc, je suis allé voir ce qui se passait. Et j'ai effectivement souscrit à 2-3 podcasts institutionnels, et tout de suite, j'ai cherché. Et quand j'ai cherché Canada. Je sais pas pourquoi, je sais pourquoi. C'est quelque chose qui m'attire depuis moi d'adolescence, effectivement. Et je suis tombé sur le podcast de La Cabane au Canada, que tu connais bien, donc celui de Pierre Journel, qui avait un an d'existence, pile poil, et j'ai écouté ce que Pierre faisait. Ça m'a accroché tout de suite, et j'ai dit, tiens, moi aussi, je vais me lancer dans cette aventure. J'avais fait de la radio libre adolescent, à 14 ans, dans les années 83, ça venait de... les radios libres, je crois que c'était 81 après l'arrivée de Mitterrand, 83, j'avais 14 ans. Je faisais déjà de la radio libre, j'ai dit tiens, je vais prendre mon micro et puis je vais causer dans le poste moi aussi. Et donc c'est parti de là, il y a 3 ans.
Et dis-moi donc, justement, ce collègue de travail-là qui t'a mis au parfum du podcasting, est-ce qu'il en faisait lui-même ou pas du tout?
Alors pas du tout, c'est un consommateur. Je sais que maintenant il suit mes podcasts assez régulièrement et puis il continue à faire des trouvailles. Souvent il va chercher des trucs, c'est quelqu'un qui aime bien se cultiver, apprendre et qui va chercher donc des choses dans iTunes U par exemple ou des podcasts institutionnels mais un petit peu plus confidentiels comme France Culture, comme l'offre de Radio France en règle générale. Oui.
Et au départ, pourquoi t'as démarré Palmipod?
Ah, c'est une bonne question. Alors, à l'époque, c'était ma passion, c'était les palmes. Si tu te rappelles, tu sais, avant qu'on ait tous nos iPhones, moi, je collectionnais les palmes déjà. J'ai fait à peu près toute la gamme, le E, le T1, T2, T3, W, C, enfin, etc. Et j'étais en train de migrer vers les iPods. Alors, palmes, iPod, palmipod, voilà. C'est né de là.
C'est bien. Et puis, tu as démarré aussi Pomme Happy. Ça fait un an?
Oui, un peu plus, ça fera 2 ans en septembre, effectivement. Alors, Pomme Happy, c'est vraiment le podcast de niche, c'est toujours pareil, ça partait de discussion. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu moins personnel, un peu plus de partager davantage. Donc, ça tournait autour de ce que je faisais à l'époque, j'étais formateur en informatique, pas forcément sur Mac d'ailleurs, plutôt d'ailleurs sur PC. Et mon plaisir, quand je rentrais à la maison, bah, c'était d'utiliser mon Mac parce qu'enfin ça marchait et que j'étais pas embêté et que je voyais beaucoup de monde qui switchait et qui avait un peu de mal à démarrer. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose pour les débutants sur Mac. Mais ça existait déjà, notamment l'excellent débuté sur Mac de Gen M4E, je sais pas si tu connais, qui est très très bien fait, ou Rhino Mac, enfin il y a vraiment des choses bien faites. Donc j'ai fait ça à ma sauce, pas forcément pour les débutants, mais en prenant une application, quelque chose de singulier, et puis en essayant de montrer comment on s'en servait, quoi.
Et puis, est-ce que tu penses être plus régulier avec tes podcasts ou continuer, faire évoluer? Parce que, bon, Palmipod a été un peu calme dernièrement aussi. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça?
Oui, alors en effet, Palmipod est resté en stand-by parce que, effectivement, Pomme Happy tournait à plein régime et que produire les épisodes de Pomme Happy, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd que de faire un podcast audio. Un podcast audio, tu l'enregistres, tu le mixes, etc., ça va très vite. Un tutoriel vidéo, c'est autre chose. Il faut faire les captures. D'abord, il faut préparer le sujet en amont. Il faut faire les captures vidéo. Après, il faut mettre les voix dessus. Après, il faut monter tout ça. Il faut le compresser pour que ce soit suffisamment... à la fois de bonne qualité et suffisamment, comment dirais-je, pas trop gourmand en place, effectivement. Et donc ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc ça m'a, effectivement, j'ai un peu délaissé Palmipod pour alimenter Pomme Happy. Et maintenant, j'essaie d'avoir toujours un petit sujet d'avance qui me permet de reprendre en rythme un peu plus régulier. Et puis c'est le temps, quoi, comme tout le monde, qui manque cruellement. Voilà.
Oui, parce qu'à l'extérieur du podcasting, on a tous une vie quand même.
Une au moins.
Si c'est pas plus. Et ça, c'est à part les 2-3 maîtresses que t'as et les enfants illégitimes.
Oui, non, mais ma femme écoute pas, tu fais bien d'en parler. Justement, elle écoute pas les podcasts ou très peu. Enfin, les miens en l'occurrence. Oui, non, j'ai quelques activités, pas mal de sport, des activités associatives dans un parti politique et pas mal de choses. Donc, ouais. Ça occupe pas mal, ouais.
Et puis. Et oui, toujours. Ben, merci beaucoup. Ça a été le fun de te rencontrer finalement face-to-face, comme on dit.
Oui, ouais, c'est rigolo. Moi, à 500 km de chez moi et toi, à quelques milieux.
Oui, quand même. Donc, la prochaine fois, est-ce qu'on te verra au Québec ou...
Eh ben écoute, j'espère bien, j'y compte bien en tout cas. On n'a pas encore un projet à court terme, mais quand le petit bout de chou sera un petit peu plus grand, pourquoi pas, avec grand plaisir en tout cas.
Ben, merci beaucoup, à bientôt.
Ben, bye.
Donc la musique que vous avez entendue tout au fil de cette portion française du Québec en balado diffusion, c'est de l'audio que j'ai enregistré à la fête des fruits dans le petit village où est-ce qu'on habitait. En fait, on habitait en France dans une commune qu'on appelle, c'est-à-dire un petit bourg qui est relié à un village, mais qui a quand même une certaine indépendance. Donc, c'est un petit village dans lequel il y a une église quand même. Il y a déjà eu une école, tout ça. Il y a un petit commerce, mais c'est tellement petit que ça n'a pas nécessairement un maire, tout ça. Donc, c'est le village voisin qui est beaucoup plus gros, qui s'appelle le Puy Sainte-Réparade. Et c'est là qu'on était. On est allé là par hasard, c'était le jour du marché, puis en même temps, ben, ils ont fait concorder ça avec la fête des fruits. Donc, il y avait des musiciens, il y avait de la sangria gratuite, il y avait un petit peu de bouffe, il y avait des brochettes de fruits, tout ça. Donc, c'était vraiment sympathique. C'était une belle journée où est-ce qu'on a acheté des fruits, des légumes frais, de la viande, du fromage, tout ça. En plus de ça, ben, on a fait jouer mon petit fiston au jeu public qui était tout près de la mairie. Puis après, on est allé à la mairie, attiré évidemment par la musique, tout ça. Puis on a participé à cette fête-là. Donc j'ai enregistré tout ça tout simplement avec mon iPhone on the spot, comme on dit. Donc c'était cette musique-là que vous avez entendue tout au long. Et l'autre musique que vous avez entendue au tout début et que je vous fais jouer une deuxième chanson ici à la fin, c'est par un groupe de Aix en Provence. Un groupe qui a participé in extremis à la fête de la musique. En fait, la fête de la musique était déjà organisée à Aix-en-Provence. Et puis, ces gens-là ont contacté les organisateurs pour dire « Eh oh, on est un groupe d'ici, on aimerait faire partie. » Et ils les ont intégrés tout simplement à ça. Puis, je vais vous dire honnêtement, d'après moi, c'était un des meilleurs groupes, un des groupes les plus sympathiques parce que beaucoup de groupes qui étaient présents là faisaient des covers de chansons pop américaines, britanniques, tout ça en anglais, alors qu'eux sont arrivés qu'avec des compositions originales en français. C'était assez sympathique. Puis ce qui est un peu drôle, vous allez découvrir le nom de ce groupe-là, c'est Un Sacre Québécois. C'était assez drôle. Donc, je vous laisse avec cette chanson-là du groupe Aixois qui porte un nom de sacre. À bientôt! Thank you.
Alors, on est un groupe issu d'Aix-en-Provence à la base. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler, parce que ben voilà, ça passe par vous, parce que sinon, ça passe pas par les radios, ce genre de choses-là. Et voilà, on a un CD à vendre, donc je vais essayer de me mettre sur le coin de la scène là-bas. Et donc, si ça vous intéresse, il est à 10€, et vous pouvez venir nous voir, acheter un CD, et puis voilà, avoir des infos sur le groupe. Merci.
Merci, le spectacle continue sur cette scène. Merci beaucoup.